Du genre dans l'histoire, saison 2, épisode 1, le genre de la team, une histoire du marché de la rencontre au 19e et 20e siècle.
Bonjour à toutes et à tous. Nous voici de retour, Clémentine Letellier et moi-même, pour une saison 2 du genre dans l'histoire, le podcast qui vous présente les grandes problématiques de l'histoire des femmes et du genre à travers des recherches récentes et s'interroge sur la transposition didactique de ces travaux dans les cours d'histoire du secondaire. Pour cette saison 2 du genre dans l'histoire fait peau neuve, avec un nouveau studio, La Poudre, merci à la Cité Audacieuse de nous héberger pendant cette saison, Clémentine, qui a tous les talents, s'occupera de la prise de son, des lectures et de la transposition didactique. La saison sera moins trépidante que la saison 1, avec un épisode tous les deux mois, mais tout aussi passionnante, nous l'espérons. Vous le savez, dans ce podcast, tous les champs de recherche qui concernent les femmes et le genre nous intéressent et nous amènent à nous questionner sur la transmission scolaire de la recherche historique la plus récente. Dans la saison 1, nous avons parlé d'éducation révolutionnaire, de sexualité médiévale, de méthodes d'avortement, de femmes guerrières, de reines et de régentes, d'artistes et d'ouvrières. Aujourd'hui, nous allons parler d'intimité, de couple et de mariage en observant l'évolution du marché de la rencontre entre les 19e et 20e siècles. Sujet ô combien contemporain, puisqu'on peut voir le développement des sites et des applications de rencontres comme une forme contemporaine de l'intermédiation de rencontres. Pour évoquer toutes ces questions, nous recevons Claire Lisgaillard, qui a soutenu en 2021 sa thèse sur l'histoire du marché de la rencontre en France au 19e et 20e siècle. Avec elle, nous allons nous interroger sur l'existence d'un marché matrimonial, sur le rôle des intermédiaires de rencontre et sur ce que les petites annonces révèlent en termes d'intimité, de stéréotypes de genre et de stratégies amoureuses et matrimoniales des Français. Dans un deuxième temps, avec Clémentine, nous vous montrerons que cette thématique des rencontres matrimoniales peut constituer un révélateur passionnant des transformations de la société entre le 19e et le 20e siècle, et donc qu'elle a sa place dans les cours d'histoire géo ou d'éducation civique. Bonjour Claire-Lise, peux-tu te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs ?
Bonjour à toutes les deux. Alors, je suis docteure en histoire depuis l'an dernier et je suis actuellement post-doctorante à l'INED, l'Institut d'études démographiques. Et mes recherches portent globalement sur l'histoire des intimités.
Alors, tu dis dans ta thèse que les sociétés du XXe siècle et même la société actuelle peinent à se souvenir qu'il existe un marché de la rencontre depuis très longtemps. Peux-tu définir ce que c'est pour toi qu'un marché de la rencontre ?
Alors, c'est une expression que j'ai construite en même temps que mon sujet de thèse, parce que ça me permettait de montrer l'évolution qu'il y avait entre l'époque moderne et l'époque contemporaine du point de vue de l'intermédiation. C'est-à-dire que ce qui se passe au XIXe siècle, c'est que l'intermédiation matrimoniale, qui a toujours existé, il y a toujours eu des gens qui étaient là pour faire les mariages, pour favoriser les rencontres, cette intermédiation-là, elle devient une profession commerciale. À ce titre-là, ça constitue progressivement un marché avec des offres commerciales inscrites à l'almanach du commerce et qui se font concurrence avec des prix. Et de ce point de vue-là, donc, ça constitue un marché de la rencontre. Et puis, ça évoque aussi les offres et les demandes qui se font face dans les petites annonces que j'étudie, mais de façon plus métaphorique.
Mais du coup, l'intermédiation matrimoniale existait déjà avant le 19e siècle ?
Oui, ça, c'est pas une invention du 19e siècle, effectivement, mais ces entremetteurs, on connaît par exemple la Frosine de l'Avare, qui est un personnage bien connu de la comédie. Ces entremetteurs, ces entremetteuses, ces marieuses et ces marieurs, n'en font pas une profession au sens fort avant le 19e siècle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rétribution. Ils peuvent être indemnisés d'une manière ou d'une autre, mais on est plutôt dans une économie du don contre don. On se rend des services, etc. Là, ce qui est nouveau au XIXe siècle, c'est qu'il y a des hommes qui ont cherché à constituer cette activité comme une profession, et plutôt même comme une branche émanant d'une autre profession, qui est celle des agents d'affaires, qui, au début du XIXe siècle, sont trop nombreux à Paris. Sous la monarchie de Juillet, il y a beaucoup d'agents d'affaires. Ce sont en fait des agences qui sont destinées à la bourgeoisie, qui aident les gens à faire des placements ou même à trouver des domestiques et parfois à faire des démarches auprès de la famille dans laquelle on veut entrer par un mariage. Ces agents-là sont en concurrence les uns avec les autres et donc le fait de se spécialiser sur la niche matrimoniale leur permet justement de sortir de la concurrence. Et c'est de là que viennent en fait les premières agences matrimoniales.
Alors, sur quelle source as-tu travaillé pour révéler justement l'existence de ce marché de la rencontre ? Est-ce que tu peux nous donner une idée du corpus que tu as constitué et des méthodes que tu as adoptées pour travailler sur ce corpus ?
En fait, je suis rentrée dans le sujet par les récits qu'il y a autour de ce marché de la rencontre. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour parler des réseaux sociaux, des sites de rencontres, etc. Et ben, de la même manière, sur la période que j'étudie, 19e, 20e siècle, il y a beaucoup de journalistes qui s'alarment de l'existence de ce marché-là. C'est une sorte de marronnier de la presse d'avoir des journalistes qui racontent comment ils sont allés dans des agences matrimoniales ou alors surtout qui commentent des annonces matrimoniales. Donc mon entrée, ça a été celle-là, de regarder ce qui en était dit dans la presse, de mesurer la place que prenait ce sujet par rapport à d'autres. Et j'ai constaté d'emblée qu'il y avait une sorte de ton partagé par les journalistes qui est l'humour. Les annonces matrimoniales, ça fait rire. Cette permanence de ton m'a un peu interrogée. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y a un consensus là-dessus ? Pourquoi est-ce que l'agence matrimoniale est sujet de vaudeville, par exemple ? Et ben, j'ai regardé dans la presse, donc l'autre endroit où on voit apparaître ces sujets des annonces, c'est pas seulement dans les chroniques des journalistes, c'est pas seulement dans la chronique théâtrale, c'est aussi dans la chronique judiciaire, parce que les agences matrimoniales se retrouvent devant les tribunaux. Et les journalistes font leur chou gras de ces histoires, ils vont au procès et puis après ils racontent ça dans la presse. Mon deuxième champ d'études, c'est aussi les archives judiciaires. J'ai pu retrouver les cas dysfonctionnels qui documentent les pratiques ordinaires. Et ce à quoi me donne aussi accès la presse, ben ce sont les annonces matrimoniales qui se développent à partir de la fin du 19e siècle. Parce que la presse entre dans un nouveau moment de son histoire à partir des années 1880, avec la presse à grand tirage, une nouvelle capacité de diffusion. Et donc les annonces matrimoniales se développent de façon exponentielle à partir de ce point de vue-là. Donc ça me permet d'avoir une prise sur la clientèle de ces agences, après avoir une prise sur les agents matrimoniaux par notamment les archives judiciaires. Et donc... Avec les annonces matrimoniales, j'ai pu constituer des corpus sériels d'annonces qui me permettaient d'avoir un contingent de clientèle, de voir qui étaient les gens qui avaient recours à ce type de service. Ce à quoi il est plus difficile d'avoir accès, en revanche, c'est les vécus individuels de cette clientèle, donc avoir accès aux histoires de rencontres, donc aux archives privées en réalité. Et pour ça, j'ai fait, depuis le début de mon travail sur ces questions, qui remonte à mon master, j'ai fait plusieurs appels à témoins pour retrouver les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de couples qui se seraient rencontrés de cette manière-là, ce qui m'a permis de faire émerger une dizaine de correspondances qui sont très riches et qui me permettent de documenter les interactions qui ont lieu après la petite annonce. Ce panel-là représente à peu près l'ensemble de mes sources pour cette thèse.
Et du coup, c'est combien d'individus ?
Alors, sur l'ensemble de la période, j'ai fonctionné comme des carottes dans le fil du temps. Donc, j'ai accès aux archives d'une agence matrimoniale par une saisie judiciaire sous la monarchie de Juillet, l'agence matrimoniale Deux Fois, qui est la plus célèbre, la plus connue et la plus importante à cette période-là. Donc ça représente trois registres avec plus de 6000 individus. J'ai fait ensuite un échantillonnage sur de la presse matrimoniale sous la Troisième République avec un échantillon de 1400 annonces. Et sous l'entre-deux-guerres, j'ai pris aussi un petit corpus d'annonces, enfin plutôt un corpus conséquent avec 4000 annonces. Donc il ne s'agit pas de comparer terme à terme, bien sûr, ces trois corpus-là, mais disons qu'ils me permettent d'avoir des indices sur l'inscription dans la période concernée, de l'évolution des critères de choix du conjoint, de l'évolution de la clientèle.
Et même de la conception du mariage.
Et bien sûr, de la conception du mariage.
On verra ça tout à l'heure. Alors justement, puisqu'il faut parler mariage, c'est quand même le sujet qu'il y a derrière ces petites annonces. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les prestations matrimoniales qui existent au moment où on se marie, au 19e et au 20e siècle ?
Alors effectivement, le mariage est bien l'affaire de prestations matrimoniales. C'est un moment d'alliance entre deux familles, tel qu'il est conçu au 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est le titre que reprennent certains journaux d'annonces matrimoniales. Dans le mariage, les hommes et les femmes apportent des capitaux. Les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait le même rôle dans cet échange économique. On attend plutôt des hommes qu'ils assurent l'avenir de la famille. Et dans les annonces matrimoniales, ça se retrouve. Les hommes vendent leur situation d'avenir, alors qu'on attend des femmes qu'elles aient plutôt, pas de l'avenir, mais plutôt du passé. En fait, on attend d'elles qu'elles aient justement du capital, donc de l'argent qui a été amassé à la génération précédente, donc du patrimoine. Le patrimoine, dans les annonces, ça se manifeste par l'existence de la dot, des avoirs, de la fortune, et aussi un terme un peu poétique ou pudique pour évoquer l'héritage, c'est-à-dire les espérances. Donc oui, les mariages sont bien des échanges économiques avant tout. Ça le reste au XXe siècle, mais ça se transforme un petit peu puisque la composition sociale au XXe siècle a évolué, notamment à la suite de la tertiarisation de l'économie qui permet aux femmes de rentrer dans le marché de l'emploi. Même si les femmes ont toujours travaillé, néanmoins, là, elles prennent progressivement plus de place dans des métiers où il est considéré comme acceptable, même dans la sphère bourgeoise, qu'elles puissent avoir ce type de métier. Secrétaire, demoiselle du téléphone, etc. Donc, ce qui se passe au début du XXe siècle, c'est que la dot diminue comme prestation matrimoniale. Et pour les classes moyennes et les classes populaires, ce qui fait office de dot, en fait, c'est le travail féminin qui remplace en fait cette prestation-là. Mais néanmoins, les échanges économiques, même s'ils changent de nature, restent inévitablement intriqués avec les échanges intimes dans le mariage.
Oui, ça vient aussi du fait que dans l'entre-deux-guerres, tu travailles sur un autre corpus qui est socialement, qui n'est pas situé exactement de la même, au même niveau que celui du 19e siècle.
Oui, bien sûr. Oui, il y a des évolutions de fond sur la sociologie de la clientèle. En fait, la clientèle des annonces matrimoniales n'est pas la même que celle des agences matrimoniales. Déjà au 19e siècle, pour une raison structurelle, c'est que les agences matrimoniales se rémunèrent en commission sur la dot. C'est-à-dire un petit pourcentage qui va de 4 à 10% sur la dot, ce qui n'est pas négligeable. L'agent matrimonial, pour que sa société survive, a besoin d'avoir dans ses registres des femmes avec des dots importantes. Donc c'est adressé à la bourgeoisie. Et lorsqu'ils font des services adressés aux classes populaires, ils l'affichent de façon publicitaire comme un signe de philanthropie pour moraliser les classes populaires, les faire rentrer dans la norme bourgeoise du mariage. Et effectivement, à partir du moment où, à la fin du 19e siècle, début du 20e, se développe le modèle plutôt de l'annonce matrimoniale par opposition à celui de l'agence qui est vu comme justement un service bourgeois et un peu archaïque et un peu aussi d'escroc parce que c'est beaucoup raconté dans les chroniques des tribunaux, à partir de ce moment-là, la clientèle se démocratise davantage, se ruralise aussi davantage et se féminise.
Alors justement, puisque nous sommes sur les agences de rencontres, est-ce que tu peux nous dire qui sont les hommes et les femmes qui tiennent ces agences et voilà, quelles sont leurs compétences en fait pour offrir ce service aux hommes et aux femmes, et aux hommes plutôt qu'aux femmes, j'ai l'impression.
Justement, c'est tout le problème de cette profession, c'est de ne pas avoir de compétences spécifiques. L'histoire de la professionnalisation du métier d'agent matrimonial ou de marieuse, c'est bien l'histoire d'une professionnalisation un peu ratée. Du fait du stigmate qui pèse sur cette profession-là, du fait justement de l'imaginaire social flou, risible, qui est créé dans la presse. Donc on a l'image d'un métier de femme, plutôt, parce que les entremetteuses, justement, avant le 19e siècle, ce sont les marieuses, parce que le mariage, c'est une question de femme dans l'imaginaire. Mais néanmoins, ceux qui ont essayé de construire la profession matrimoniale comme un métier, ce sont des hommes. C'est Claude Vuillaume sous le Premier Empire, c'est deux fois sous la Monarchie de Juillet, où ils sont allés devant les tribunaux pour faire sanctionner la profession matrimoniale, selon leur expression. En fait, ces gens-là, c'est pas très simple de travailler sur eux parce que justement, ils ne laissent très peu de traces. Parfois, ils travaillent avec un pseudonyme. On a peu de sources sur elles et sur eux. Ce qui est apparu dans mon travail, c'est que la dimension féminine de la profession dans les représentations, ça suscite, sans surprise, aussi une décrédibilisation de cette profession-là. Ce sont des femmes qui s'amusent avec leur qualité naturelle d'entremetteuse dans tout un discours d'essentialisation des qualités féminines. Donc ce serait plutôt des femmes de la bourgeoisie déclassée qui utilisent leur capital social, leurs relations, pour se maintenir à un certain niveau de vie. Donc voilà, ce serait en fait ou de la noblesse désargentée ou de la bourgeoisie en déchéance. Et ça, effectivement, j'ai pu le retrouver d'une certaine mesure. Et du côté des hommes, lorsque j'ai pu le documenter, ce qu'on voit, c'est que ça peut être un terrain pour des aventuriers ou des ambitieux qui considèrent qu'il y a là de l'argent facile à se faire et qui tentent, à un moment donné, d'ouvrir une agence matrimoniale plus ou moins sérieuse. Et en fait, il y a beaucoup de turnover dans ces petits commerces. Il y a finalement beaucoup d'initiatives, mais il y a peu d'agences qui arrivent à se maintenir sur le temps long. Parce que le principe de ce commerce, c'est que pour que ça marche, il faut que ça marche. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la clientèle. C'est un type de commerce qui ne souffre pas trop la concurrence. Donc, les agences s'éliminent très rapidement les unes.
Il faut des hommes qui veulent se marier, il faut des femmes à marier, et puis il faut pouvoir les trouver et les mettre en relation.
C'est ça.
Mais dans ta thèse, en fait, tu as beaucoup travaillé sur les réseaux de ces directeurs et directrices d'agence, et tu as montré qu'en fait, du coup, c'est une profession qui repose moins sur des compétences que sur la possession ou la capacité de se construire un réseau, ce qui sous-entend aussi tout un tas d'intermédiaires qui vont relayer l'information pour permettre finalement aux directeurs d'agence d'inscrire des femmes à proposer à des hommes, puisque c'est comme ça que ça fonctionne.
Oui, c'est ça. En fait, pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la marchandise, et la marchandise, ce sont les femmes. C'est le nom de ces femmes. En fait, la marchandise, c'est l'information sur ces femmes-là. Et le modèle de l'agence matrimoniale telle qu'il se développe au XIXe siècle, c'est justement ça. C'est le modèle de l'agence deux fois que j'ai étudié, où on voit dans les registres qu'il y a à peu près 4000 femmes et 2000 hommes. Donc, a priori, on pourrait se dire, dans une première étape de l'analyse, que ce déséquilibre assez massif peut représenter la difficulté pour les femmes à se marier. Donc, elles ont plus besoin de se marier, donc elles sont plus présentes à l'agence. Mais quand on regarde dans le détail, on voit que dans les inscriptions des femmes dans le registre, il y a un nom qui apparaît avant le nom de la femme inscrite, qui peut revenir pour plusieurs autres femmes, qui est en fait le nom d'un intermédiaire qui est rémunéré par deux fois pour que cet intermédiaire, ce rabatteur, lui apporte des informations cruciales sur d'abord le nom de la jeune fille, son âge, sa dot, etc. Donc effectivement, oui, l'agence repose sur un réseau de rabatteurs qui permettent la circulation de l'information et qui visent les classes bourgeoises et les jeunes filles des classes bourgeoises au service d'une clientèle masculine qui, elle, est d'une bourgeoisie, bien sûr, mais d'une bourgeoisie un peu moins aisée que les femmes inscrites à l'agence, inscrites à leur insu à l'agence, un peu moins aisées, donc ces hommes, et souvent un peu plus provinciaux. Souvent, en fait, c'est qu'ils manquent de relations à Paris, qu'ils veulent s'installer durablement à Paris et qu'ils sont prêts à payer une somme pour s'enraciner dans la société parisienne par un bon mariage. Ils sont d'autant plus prêts à la payer que c'est pas eux qui vont la payer, mais c'est la dot de leur future épouse.
Oui, c'est assez fascinant de voir ces milliers de femmes qui sont inscrites dans les registres des agences sans même le savoir et qui, du coup, vont pouvoir rencontrer des maris sans même comprendre qu'il y a l'entremise d'une agence pour amener cette rencontre.
Oui, tout est fait pour qu'elles ne sachent pas d'où vient le prétendant. Alors ça, ce n'est pas tout à fait nouveau parce que les familles au XIXe siècle organisent les mariages. C'est le principe du mariage arrangé. Il y a des rencontres qui sont organisées lors de visites l'après-midi, de soirées, de promenades au parc, de rencontres à l'opéra, etc. Donc c'est justement ce système des mariages arrangés qui prévaut dans la bourgeoisie au XIXe siècle qui permet à l'agence matrimoniale de présenter des prétendants sans que non seulement la jeune fille n'en sache rien, en tout cas de là où vient ce prétendant, mais aussi la famille de la jeune fille. C'est ça qui est nouveau, en fait. C'est ça qui fait la différence entre le fonctionnement des agences matrimoniales et le fonctionnement ordinaire dans la bourgeoisie. Ce qui est tout à fait original et qui suscite la critique et les moqueries des journalistes, c'est toute la mise en scène qui est organisée par les agents matrimoniaux, justement, pour présenter les prétendants, qui, sans l'entremise de l'agence, n'aurait jamais eu accès à ces familles-là. Alors justement, non seulement il y a des rabatteurs, mais aussi des intermédiaires, des gens qui servent à présenter le prétendant, qui vont utiliser un prétexte, donc qui ont des connexions avec la famille, eux, et qui vont utiliser un prétexte de lien avec le prétendant.
Tous ces aspects-là expliquent aussi pourquoi ces agences sont critiquées et même pourquoi on fantasme sur ce qui s'y passe ou sur la façon dont ils procèdent pour créer des mariages.
Cette entrevue a lieu ordinairement de 4 à 5 heures du soir. Il y a pour cela dans les agences des appartements spéciaux, divisés en deux parties par un vitrage. Un des côtés, celui où doit être le prétendu, est tenu dans l'obscurité. Le compartiment dans lequel est assise la demoiselle est au contraire bien éclairé, afin que l'on puisse admirer ses charmes. Si la demoiselle est pianiste, si elle a une jolie voix, les entremetteurs ne manquent pas de lui conseiller de faire valoir ses avantages, et souvent la pauvre fille qui veut se marier exécute en rougissant une valse ou chante une romance destinée à séduire un fiancé anonyme. Dans les agences matrimoniales, la demoiselle pose pour le futur époux. Théodore Henry, à travers Marseille, les agences matrimoniales, dans Le Petit Marseillais, 20 avril 1873.
Alors oui, ce texte est vraiment un exemple de la vision que peuvent avoir les contemporains sur ces agences. Est-ce que tu peux nous dire comment les Français et les Parisiens de cette époque voient ces agences et les considèrent ?
Bah effectivement, l'exemple qu'on a entendu illustre bien tous les fantasmes qu'il y a autour de ces agences-là. L'idée qu'il y aurait d'un côté la jeune fille qui ne sait rien et de l'autre le prétendant qui est en train de la regarder dans une perspective un peu malsaine. En fait, ce que dit ce texte-là, cette critique-là, c'est toute la critique de la marchandisation. Les agences matrimoniales au XIXe siècle sont un symptôme, enfin en tout cas elles sont vues comme un symbole de la modernité des temps. Et notamment cette idée qu'au XIXe siècle, l'argent aurait tout corrompu, que tout serait devenu marché. Il y a un des auteurs que j'ai étudié qui dit « Aujourd'hui, tout s'achète, même les relations ». Et cette corruption par l'argent aurait justement mené à l'existence de ces agences matrimoniales-là. Ce que ça révèle, c'est que le XIXe siècle bourgeois est très attaché à une conception de la société qui mettrait d'un côté la sphère privée et de l'autre la sphère publique. C'est la conception dite des sphères séparées. Et d'un côté, la sphère privée qui serait celle du monde des femmes et qui serait celle de la sentimentalité. Et de l'autre, la sphère publique qui est le monde des hommes, de la politique et du marché. Et justement, les agences matrimoniales, par leur existence même, elles montrent qu'il y a des intrications entre les deux. C'est bien pour ça qu'elles sont critiquées, parce qu'elles mettent au jour les intrications, et donc elles sont dénoncées comme étant des lieux où on vend les femmes. La marchandisation est critiquée pour cette raison-là, et l'extrait qu'on a entendu, c'est bien ça. La jeune fille est un objet, une marchandise, qui est offerte à la consommation du prétendant.
Oui, mais finalement... c'est sur la façon dont ça se passe qui leur pose problème, parce que cette marche, enfin, c'est pas une marchandisation, mais le fait que les femmes soient des objets qui circulent entre les familles et qui vont être estimées, évaluées, regardées, et puis finalement choisies, au contraire rejetées, c'est une réalité qui existe depuis très très longtemps.
Mais justement, et c'est précisément pour ça que la critique est si forte, parce que justement les agences matrimoniales, elles montrent les paradoxes du mariage bourgeois. Parce que d'un côté, il y a bien cette réalité des échanges économiques qui sont très importants, et d'autant plus dans les mariages bourgeois. Et de l'autre, au fur et à mesure du XIXe siècle, il y a aussi des contre-discours, des critiques du mariage bourgeois qui montrent que ces unions ne sont pas très heureuses lorsqu'elles sont basées sur les dimensions économiques. Il y a quand même une forte critique du mariage à la fin du XIXe siècle qui vient des féministes, des anarchistes, du socialisme en général, et qui commence à parler aussi de la possibilité d'union libre, ou pas par les mêmes personnes, mais du mariage d'amour. Et donc précisément, les agences matrimoniales montrent l'hypocrisie de la bourgeoisie qui a recours à ce type d'agence, puisque d'un côté, elle valorise le mariage d'amour, et de l'autre, en même temps, elle doit continuer à assurer ses intérêts économiques par les mariages.
Avançons dans le temps. À quel moment les petites annonces matrimoniales apparaissent-elles dans les journaux ?
Alors, il y en a en fait dès la toute fin du XVIIIe siècle. Si on cherche vraiment dans les coins, et notamment de la presse d'annonces d'Ancien Régime, on peut trouver des demandes un peu sporadiques sous forme de lettres adressées à la rédaction. On en retrouve aussi au début du XIXe siècle, notamment passées par les premières agences matrimoniales, notamment celle de Claude Villaume. Mais ça reste très sporadique. Le moment où ça se développe, c'est au moment du développement de la presse à grand tirage, à la fin du XIXe siècle. Et ces annonces se développent dans un écosystème qui est celui de la quatrième page des journaux, où il y a d'autres types d'annonces. Il y a des annonces diverses, il y a des annonces de logements, des annonces d'emploi, évidemment. Et justement, cette coprésence sur une même page entre des annonces de mariage et des annonces de logement, ou même dans les annonces diverses, il peut y avoir des offres prostitutionnelles, cette coprésence-là, elle participe à la mauvaise réputation des annonces matrimoniales, qui sont toujours accusées un peu d'immoralité, parce que sous ces annonces matrimoniales-là, dans la presse à grand tirage, ou dans la presse illustrée, qui est connue pour être érotique, ou frivole, ou galante, eh ben, il peut se cacher soit des escroqueries, soit des prostituées qui cherchent par là à se faire une clientèle. Et puis le moment où ça prend véritablement son essor, en fait, c'est au premier XXe siècle, pas tant dans la presse générale, du coup, où les annonces matrimoniales ont acquis une mauvaise réputation, que dans de la presse spécialisée, après la Première Guerre mondiale, avec un effet de circonstance. Après la Première Guerre mondiale, le marché matrimonial est très déséquilibré par la mort de nombreux hommes en âge de se marier au combat. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs de presse qui voient là une opportunité pour lancer un journal d'annonces matrimoniales. Et c'est le moment où il y a le plus de créations de journaux matrimoniaux en France, c'est pas seulement à Paris, donc toutes les grandes villes ont à ce moment-là eu un journal d'annonces matrimoniales.
Donc toi, tu as travaillé sur quel journal pour l'entre-deux-guerres ?
Alors moi, pour l'entre-deux-guerres, j'ai travaillé sur l'Intermédiaire discret, qui est un journal bordelais et qui est le journal bordelais qui a pris la place bordelaise sur la question, non, même sur la Gironde, qui a eu quasiment 20 ans d'existence.
On va maintenant s'intéresser aux caractéristiques stylistiques observées dans la rédaction de ces petites annonces. Tu parles dans ta thèse d'un système codé, d'une grammaire du lien social. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là ?
Alors, la première caractéristique, c'est qu'elles sont extrêmement standardisées. Ça n'a pas été toujours le cas. La standardisation est venue au fil du 19e siècle. Les toutes premières annonces dont je parlais à la fin de l'Ancien Régime, donc c'est plutôt des lettres adressées à la rédaction qui sont très longues, mais qui ont déjà parfois aussi l'utilisation de la troisième personne du singulier quand la rédaction reprend à son compte au discours indirect. Et puis progressivement, elle se codifie ces annonces par des contraintes formelles qui sont que pour passer une annonce, il faut payer. Donc on réduit le nombre de mots, on paye au nombre de mots. Ce qui explique qu'on n'a pas de déterminant, par exemple, dans les annonces, ou très peu. De ce fait, on utilise très peu de mots différents. En fait, toutes les annonces se ressemblent. Les gens, lorsqu'ils écrivent leur annonce, utilisent des mots qui sont ceux des annonces qu'ils ont déjà lues. Il y a un effet de mimétisme. Donc, dans ce système-là, forcément, tous les mots qui manquent ou les mots qui dépassent sont sursignifiants. Et c'est justement ces codes-là qui permettent de repérer certaines situations spécifiques, notamment les prostituées qui se cachent dans les annonces à la quatrième page des journaux. Ou alors, par exemple, lorsqu'on cherche un mariage rapide, s'il s'agit d'une annonce de femme ou d'une annonce d'homme, ça ne veut pas dire la même chose. Bon, pour une annonce de femme, un mariage pressé, ça laisse supposer l'idée qu'il s'agit, autre expression qu'on retrouve dans les annonces, d'un mariage avec tâche, c'est-à-dire une grossesse, en fait, qui arrive à terme et il faut qu'il y ait rapidement un mari pour régulariser la situation. Pour un homme, une alliance rapide, ça fait plutôt référence, ou un homme qui serait pressé de se marier, ça fait plutôt référence à des problèmes financiers. Quelqu'un qui a des dettes, en fait. Il a besoin très vite de renflouer ses dettes. Donc, effectivement, c'est ça qui est intéressant dans la grande standardisation, c'est que dès qu'il y a des petites irrégularités, elles veulent dire quelque chose. Dans ma thèse, je me suis amusée justement à faire une sorte de petit lexique à l'usage de mes lectrices et lecteurs pour qu'ils arrivent à repérer, ils soient des expertes et des experts des codes de ces annonces-là, justement.
Docteur épouserait personne sérieuse, distinguée, bien physiquement, affectueuse et femme d'intérieur. Photo nécessaire sera renvoyée. Demoiselle, 29 ans, petite, brune, bien physiquement, femme d'intérieur, moralité, éducation, instruction parfaite, catholique pratiquante, situation, avoir, espérance directe. Épouserait monsieur bonne moralité. L'intermédiaire discret, janvier 1938.
Alors justement, tous ces mots-clés qu'on retrouve dans les petites annonces des hommes et des femmes de l'intermédiaire discret, t'ont permis de déterminer des caractéristiques des hommes et des femmes qui ont recours à ce moyen de se rencontrer. Est-ce que tu peux nous les présenter ?
Oui, alors par exemple, dans l'annonce qu'on vient d'entendre, la demoiselle a 29 ans, on est dans l'entre-deux-guerres. C'est un âge assez caractéristique des femmes qui s'inscrivent dans ces annonces matrimoniales-là, dans l'entre-deux-guerres, parce que ça correspond à l'usage qu'en fait la clientèle, c'est-à-dire plutôt remédier à un célibat tardif. Ça, c'est plutôt l'usage des femmes, ce qui explique qu'on va trouver assez peu de femmes avant 25 ans, puisque 25 ans est considéré comme l'âge pivot à partir duquel les jeunes filles coiffent Sainte-Catherine, selon l'expression, et donc ne sont plus des jeunes filles et risquent le stigmate de la vieille fille. Au fur et à mesure de ma période, donc là on parlait de l'entre-deux-guerres, mais au fur et à mesure de ma période, les écarts d'âge de la clientèle diminuent un petit peu, mais c'est le fait des recompositions de l'intermédiation dont on a parlé, parce que au début du 19e siècle, chez De Foix, les jeunes filles sont très jeunes pour le coup. La moyenne d'âge est dans la vingtaine d'années. Alors que les hommes, eux, sont au-delà de 30 ans, donc ils ont dépassé l'âge moyen au mariage qui est de l'ordre de 27-28 ans pour les hommes à ce moment-là, alors que les jeunes filles, elles, ne l'ont pas dépassé. Mais ça s'explique parce qu'elles sont de très bons partis, elles n'ont pas besoin de l'agence, et c'est pour ça qu'elles sont dans ces registres, justement. Au fil du 19e siècle, du coup, les âges s'égalisent un petit peu entre hommes et femmes, avec un écart qui est en fait représentatif de la perception que se font les hommes et les femmes de l'écart d'âge au mariage. Donc les hommes sont toujours un peu plus âgés que les femmes, mais globalement, la clientèle des annonces matrimoniales vieillit un petit peu au fil de la période.
Et quelles sont les catégories sociales qui ont recours à ces petites annonces ?
Alors, dans les annonces du 19e siècle, même si on n'est plus dans un système des agences avec la commission sur la dot, ça reste quand même considéré comme un service pour la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie reste importante dans les annonces de la fin du 19e siècle, avec notamment beaucoup de commerçants, mais c'est plutôt de la petite bourgeoisie. C'est ce qu'Adeline Demar appellerait de la bourgeoisie populaire. Ça permet de suivre un peu l'évolution de la société. Entrent dans ces annonces-là également des fonctionnaires, en grande partie dans l'entre-deux-guerres, avec certaines figures du célibat, d'ailleurs les institutrices, qui représentent une figure du célibat féminin, mais aussi les demoiselles des postes, les demoiselles du téléphone, les dactylos, beaucoup.
Et est-ce qu'on trouve des ruraux parmi ces petites annonces ?
Oui, dans l'entre-deux-guerres, c'est une des catégories qui émerge vraiment, et notamment pour les hommes. Pierre Bourdieu l'a analysé dans Le bal des célibataires. Au début du XXe siècle, il y a une première forme, enfin pas une première, en tout cas une étape de l'exode rural qui concerne plutôt les femmes. Et du coup, dans les annonces de l'entre-deux-guerres, on voit à la fois des hommes ruraux et des femmes rurales, mais qui sont destinés à ne pas finir ensemble, parce que les hommes ruraux, parce qu'ils manquent de jeunes filles dans leur entourage, cherchent des femmes qui vont soit rester, soit venir dans l'exploitation, et les femmes rurales, elles, cherchent, en utilisant les annonces, à aller en ville, ou dans les bourgs, ou en tout cas, elles n'ont pas l'intention de rester à la campagne.
Oui, d'ailleurs, tu montres dans ta thèse qu'il y a vraiment une différence entre les attentes de lieu de vie des hommes et de ceux des femmes, que finalement les femmes sont beaucoup plus tournées vers la ville et au contraire les hommes ont l'air de rêver de s'installer à la campagne ou en province.
Bah, en tout cas, dans le cadre de ces hommes, de ces agriculteurs en fait, de l'entre-deux-guerres, oui, ça se vérifie assez directement.
Et est-ce que on voit apparaître au XXe siècle des femmes divorcées, des hommes divorcés ? Enfin, on imagine qu'il y a beaucoup de veuves, effectivement, après la guerre 14-18. Qu'en est-il de ces deux catégories ?
Alors, les veuves ont toujours été une catégorie très représentée dans les registres d'agences matrimoniales et dans les annonces matrimoniales. Mais déjà parce que le taux de veuvage est important et on se remarie beaucoup au XIXe siècle. Les veuves de guerre sont très représentées, effectivement, après la Première Guerre mondiale. Et pour les divorcés, c'est intéressant de voir que dans mon corpus de la fin du XIXe siècle, alors qu'il y a l'autorisation, la réautorisation du divorce pour faute en 1884 par la loi Naquet, en fait, je ne vois aucun divorcé dans ces annonces-là. Alors même que dans la presse, justement, les agences et les annonces matrimoniales sont moquées pour être le refuge des déclassés, et notamment des divorcés. On peut donc l'interpréter non pas comme une absence des divorcés, mais plutôt comme la force du stigmate du divorce qui interdit aux divorcés, s'ils ont recours aux annonces, de le préciser parce que c'est ruiner toutes ses chances d'avoir accès au mariage. Les divorcés apparaissent en revanche dans les annonces de l'entre-deux-guerres, mais ils sont en bas de la hiérarchie des statuts matrimoniaux. Et on trouve pas mal de formules de type « divorcer, s'abstenir » dans les demandes. Ou alors, pour les divorcés, lorsque eux-mêmes le sont, ils précisent « divorcer à profit ». C'est-à-dire que, comme le divorce n'est pas par consentement mutuel, mais pour faute, ça permet de dire « la faute du divorce ne me revient pas, elle revient à l'autre ».
C'est vraiment intéressant parce que ça permet de mesurer la différence entre la loi, l'adoption d'une loi, l'application d'une loi, et puis ce qu'elle devient dans le corps social. En fait, le fait que les gens aient le droit de divorcer, ça ne veut pas dire que c'est bien vu ou que c'est facile pour les familles de le faire.
Mais c'est ce qui fait l'intérêt des petites annonces comme source d'ailleurs. En fait, ça donne à voir la perception que se font les hommes et les femmes de différents faits sociaux. Donc ça donne à voir en fait la hiérarchie des valeurs qui structurent une société.
Mais justement, est-ce que tu as le sentiment, quand tu lis toutes ces petites annonces, quelles sont caractéristiques du marché matrimonial, je dirais réel, quoi, celui qui se déroule sans petites annonces, ou au contraire, est-ce qu'on voit des profondes différences ?
Alors, pas tout à fait des profondes différences, mais plutôt des exacerbations. Parce que le marché matrimonial des annonces renforce les règles à l'œuvre dans les rencontres ordinaires. Pourquoi ? Parce que les gens, en s'inscrivant dans une annonce, lisent les autres annonces, donc ont une conscience de la hiérarchie des individus les uns par rapport aux autres, de la hiérarchie entre les sexes, et donc ils adaptent leurs attentes et leurs présentations en fonction de ce qu'ils pensent être les règles de la société. Et du coup, ça a des effets très forts dans les unions qui ont véritablement lieu. Parce que, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, les annonceurs et les annonceuses lisent la presse comme tout le monde, ils ont une certaine idée de ce qui se passe, et il y a un sujet dans l'entre-deux-guerres, c'est le célibat féminin. Puisqu'il n'y a plus d'hommes, beaucoup d'hommes sont morts au combat, les femmes risquent un célibat massif. Et vu le traitement littéraire qu'ont fait des vieilles filles, c'est représenté comme une crainte. Ces craintes-là, elles sont aussi le signe de discours conservateurs qui craignent l'autonomie des femmes, qui craignent pire que l'autonomie et le lesbianisme peut-être. Donc tout ce discours-là, les gens qui s'inscrivent, les hommes et les femmes qui s'inscrivent dans les annonces, ils l'ont en tête. Donc ça produit des stratégies différentes. Du côté des hommes, ils ont l'impression qu'il y a une disponibilité féminine massive qui va leur permettre d'avoir de plus hautes prétentions et donc de mieux choisir leur conjointe. Et du côté des femmes, elles pensent exactement la même chose. Elles pensent aussi qu'il y a une disponibilité féminine massive et donc que pour augmenter leurs chances de se marier, il faut qu'elles rabaissent leurs prétentions. Donc dans les couples qui finissent par se former dans ces annonces, on voit ces différences-là. On voit que les prétentions masculines sont ce qui dicte la règle des unions.
Célibataire, 32 ans, physiquement bien, excellente éducation catholique, solide instruction, agent au Soudan d'une firme importante, situation 50 000, économie, dot. Désir correspondre ou connaître en vue de mariage, vraie jeune fille de 18 à 25 ans, physiquement très bien, bonne éducation, instruction, dot pas indispensable si vraiment très bien. Jeune fille 18 ans, physiquement bien instruite, art ménager, peinture, piano, catholique, pratiquante. Avoir 30 000, espérance 60 000, épouserait fonctionnaire 24 à 32 ans ou situation industrielle. L'intermédiaire discret, janvier 1934.
Alors on a parlé pour les mariages du 19e siècle de l'importance de la famille. Que devient la famille à l'époque des petites annonces ?
Elle disparaît pas complètement parce que il reste quelques annonces, c'est de l'ordre de 1%, hein, mais il reste quelques annonces dans l'entre-deux-guerres qui sont rédigées par les familles, ce qui était quand même très fréquent à la fin du 19e siècle. Mais la famille prend surtout une autre place, disons qu'elle est plus une référence abstraite. On va évoquer qu'on vient d'une bonne famille, par exemple. Mais ce n'est pas tant dans les annonces que la famille a un rôle, c'est plutôt après, au moment où le contact se prend entre les deux personnes, qu'on suit les correspondances, on voit par exemple que le prétendant peut envoyer une lettre à l'abbé du coin pour demander des références sur la famille de la jeune fille avec laquelle il est en train de parler. Donc la famille reste quand même importante, mais néanmoins c'est une période d'individualisation du choix du conjoint et de la conjointe. Et pour les femmes notamment, les annonces représentent quand même une forme d'émancipation de ce point de vue-là. Donc il y a un recul de la famille qui permet une plus grande liberté du choix. Malgré cette plus grande liberté, les contraintes socio-économiques et familiales, si elles ne sont pas imposées de l'extérieur, elles sont intériorisées. Et justement, le fait de rabaisser ses prétentions pour les femmes, le fait d'intégrer tout un tas de normes, ça en est l'illustration.
Et d'un point de vue économique, tu expliques aussi que ce XXe siècle, c'est le moment où il y a une très forte solidarité conjugale qui s'établit. Finalement, c'est plus le couple qui s'impose face à la famille.
Oui, on est plutôt dans une conception au XXe siècle du couple duo, plutôt que le couple chaînon. Là, ce sont des catégories qu'a utilisé Irène Terry, par exemple, pour montrer l'évolution du couple au XIXe, XXe siècle, où la cellule couple en duo est aussi très valorisée dans la littérature, dans la presse féminine qui se développe à cette époque-là. Et on dit beaucoup aux femmes que c'est le couple, que c'est ce binôme qui est un espace de réalisation du bonheur conjugal. Et justement, le bonheur conjugal est aussi une expression qui est de plus en plus présente dans les représentations à cette époque-là.
Alors intéressons-nous maintenant aux attentes de ces hommes et de ces femmes et surtout aux stéréotypes masculins et féminins qui émergent de ces petites annonces.
Alors les stéréotypes masculins et féminins, c'est précisément ce que permettent de voir les petites annonces. Au XIXe siècle, étant donné la place de la dimension économique et sociale, en fait on voit des stéréotypes de genre liés à l'économie. C'est-à-dire justement qu'une femme attrayante, c'est une femme qui a une dot importante. Un homme attrayant, c'est un homme qui a une situation d'avenir prometteuse, un homme actif. Quelque chose qui ne bouge pas trop, en tout cas qui reste très visible dans tous les cas, c'est la jeunesse des femmes. Les femmes ont un capital jeunesse qui va en décroissant, alors que les hommes ont plutôt un capital maturité. Les hommes sont souvent, parfois pensés trop jeunes pour se marier, alors qu'une femme n'a très rarement pensé trop jeune pour se marier. Donc jeunesse des femmes, beauté des femmes, bien sûr. Le physique apparaît dans les annonces matrimoniales plutôt au XXe siècle. Au XIXe siècle, c'est vraiment une silhouette hein, qui se dégage, la taille, la couleur des cheveux. Au XXe siècle, on commence à être un petit peu plus précis. On peut évoquer pas seulement la taille, mais le fait d'être svelte, d'avoir une allure moderne, d'être élégante ou élégant. La couleur des cheveux, toujours, est un fil rouge. Et la taille, on voit dans la taille comme dans les écarts d'âge, un effet en fait, de la domination masculine. Parce que de la même manière que les hommes veulent des femmes jeunes et les femmes des hommes un peu plus âgés, les hommes veulent des femmes petites et les femmes veulent des hommes grands. Donc les hommes ne disent pas s'ils sont petits et les femmes ne disent pas si elles sont trop grandes. Donc là, c'est un effet que Michel Bozon appelle de domination consentie sur cette différence de taille et cette différence d'âge.
Est-ce que tu as l'impression, à travers ces petites annonces, que tu as pu voir se transformer la société française sous tes yeux ?
Alors oui, dans une certaine mesure, parce que justement, ça me permet de voir en fait l'évolution des valeurs d'une société. Néanmoins, la séquence que j'ai découpée, en gros du milieu du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est une séquence assez cohérente du point de vue de l'histoire de l'intimité. Il y a des modifications, bien sûr. Le rôle de l'affection dans les représentations, il y a pas mal de modifications. Mais dans les pratiques, il y a aussi beaucoup de permanence. Et les grandes ruptures du point de vue de l'intimité, elles arrivent plutôt au milieu du XXe siècle. Même s'il y a des évolutions, bien sûr, plutôt à la fin du XIXe siècle.
Alors, il y a une question que tout le monde se pose. C'est est-ce que ces petites annonces aboutissent réellement à des mariages ?
Alors, c'est difficile de le mesurer, mais les journaux matrimoniaux ont tout intérêt à faire état de leurs résultats. Donc, l'intermédiaire discret, par exemple, a la très bonne idée de dire tous les mois le numéro 1407 s'est marié avec le numéro 2748. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller identifier qui étaient les couples et de mesurer un taux de réussite qui est de l'ordre de 13%. Donc c'est non négligeable mais pas majoritaire. Mais ce qui me permet aussi de réévaluer le taux d'usage de ces annonces. Parce qu'on a tendance à évaluer le taux d'usage des annonces en fonction des couples qui se sont effectivement formés, puisque c'est, pour l'historien que je suis, arriver à retrouver ces couples, c'est arriver à retrouver des descendants. Donc, pour qu'il descendant y ait, il faut que couple il y ait. Mais du coup, ça laisse à penser qu'il y a plus de 80% des annonceurs qui n'ont finalement pas été en couple via l'annonce, mais qui ont quand même utilisé ces annonces-là. Donc, ça permet de réévaluer un peu le taux de pratique du marché de la rencontre au 19e siècle et 20e siècle.
Ouais, donc on utilise ce marché, mais ça ne marche pas du tout à tous les coups.
Il y a beaucoup d'échecs, et une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'échecs, c'est parce qu'il y a peu de concessions. Et précisément, lorsqu'on rentre dans le marché de la rencontre, on n'y rentre pas pour faire des concessions. Et si on met face à face les annonces des hommes et les annonces des femmes présentes dans un même journal, dans un même numéro, on voit que si personne ne fait de concessions, personne ne se marie. Et lorsque les concessions sont faites, lorsque justement on regarde les couples qui sont issus de ces annonces-là, on voit que les concessions sont plutôt du côté des femmes, notamment dans l'entre-deux-guerres, parce qu'elles considèrent qu'elles ne vont pas avoir tant de chances que ça de se marier ou de se remarier.
On sait que le mariage d'amour, c'est quelque chose qui est assez récent. Enfin, en tout cas, on a tendance à le penser. Est-ce que tu as eu l'impression, dans tes petites annonces, de voir surgir l'amour, comme une attente peut-être ?
Alors effectivement, on le voit surgir moins l'amour que l'affection, que les sentiments, les critères physiques, les critères moraux, comme thème des annonces dans l'entre-deux-guerres. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il y a une invention du mariage d'amour au début du XXe siècle. Ce que ça veut dire, c'est que le critère... les critères sentimentaux peuvent être des critères premiers au même titre que l'économie. Mais si on regarde au XIXe siècle, dans les annonces du XIXe siècle, effectivement, il y a très peu de place pour la dimension sentimentale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas au mariage d'amour. Je l'avais évoqué tout à l'heure, il y a quand même tout un essor de textes qui vantent le mariage d'amour, les bienfaits du mariage d'amour à la fin du XIXe siècle. Pourquoi on ne le voit pas dans les annonces ? Parce que ce n'est pas le moment où ça se règle. On considère qu'il y a des mariages d'amour arrangés dans la bourgeoisie et qui font justement arranger les conditions sociales et économiques, c'est ce qui se passe dans les annonces, pour que l'amour puisse advenir. En fait, l'amour est vu comme une sorte de couronnement de situations bien assorties. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde la littérature sur les mariages amoureux du tournant 19e, 20e siècle, les protagonistes qui se marient finalement tout en étant amoureux tombent amoureux, comme par hasard, dans leur classe sociale.
Alors là, tu me donnes une transition magnifique vers le livre de Marie Bergström, Les nouvelles lois de l'amour, qui parle des sites de rencontres et justement de la façon dont les appariements se font dans les sites de rencontres. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a une filiation entre tes petites annonces de journaux et les sites de rencontres et les applications qui se développent énormément depuis une quinzaine d'années ?
Il y a tout à fait une filiation et quand on en discutait avec Marie Bergström, avec qui je travaille à INED, on est frappé par les permanences qu'il y a entre nos deux sujets. Et moi, je suis assez convaincue qu'il n'y a pas de rupture entre l'ère du numérique et la culture imprimée, qu'il y a bien des filiations. Elles sont nombreuses, ces filiations. La première, c'est celle des entrepreneurs, en fait. Marie Bergström montre que ces sites-là sont souvent faits par des hommes, que les appariements sont aussi pensée par des hommes. C'est de la même manière que l'agence matrimoniale de deux fois l'était. Donc la dimension commerciale, il y a des continuités. Et puis surtout, dans les interactions qui ont lieu entre les hommes et les femmes sur ces plateformes-là, les continuités sont celles qui sont en fait enracinées dans notre société héritière du XXe siècle. Marie Bergström parle notamment d'injonction à la pudeur féminine et de crainte de la violence masculine, qui sont deux idées intériorisées par les hommes et par les femmes, qui les amènent à faire des stratégies différentes. À quel moment est-ce qu'on se voit? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas dans la conversation? Et ces deux attitudes, ces deux stéréotypes de genre, en réalité, je les retrouve aussi au XXe siècle, dans les craintes et les fantasmes des usagers et usagères d'annonces. Pour les femmes qui ont peur justement de voir advenir la violence masculine, d'autant plus qu'en 1921, il y a eu le procès de Landru qui recrutait ses victimes par annonce. Et du côté des hommes, l'injonction à la pudeur des femmes, elle est entretenue par cette idée que derrière les annonces se cacheraient des prostituées. Donc de ce point de vue-là, il y a une grande continuité dans les représentations des stéréotypes de genre.
Il y a aussi des stéréotypes très forts dans la façon de se décrire et dans la façon de décrire les femmes, parce que c'est plus souvent les hommes qui décrivent leurs attentes aussi féminines. Et il y a des très grands stéréotypes dans ces attentes.
Oui, ça c'est quelque chose qui effectivement était frappant dans mon étude, de voir que les hommes décrivent ce qu'ils veulent et les femmes décrivent ce qu'elles sont. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que le rapport de séduction est en faveur des hommes. Les hommes sont en position d'acheteurs du marché, pour le dire très métaphoriquement. En tout cas, c'est eux qui choisissent. Et les femmes sont en position passive, et non pas active, d'être choisies. C'est ce qui explique qu'il y a plus de mots qui sont consacrés pour les femmes à leur description à elles que pour la description de ce qu'elles veulent, puisque de toute façon, de fait, elles attendent qu'on leur écrive. Et les rédactions des journaux précisent « Messieurs, c'est à vous d'écrire, faites le premier pas, même si les femmes ont le droit de le faire, on attend que vous le fassiez. » Donc ça, effectivement, c'est une permanence du rapport de séduction passivité féminine, activité masculine.
Merci Claire-Lise pour cette passionnante présentation du contenu de ta thèse et de ton travail. Alors maintenant, dans la deuxième partie de ce podcast avec Clémentine, nous allons, avec Clémentine et toujours avec Claire-Lise, parce qu'à qui j'ai aussi des questions à poser, nous allons réfléchir à la façon dont ces travaux de recherche pourraient être utilisés avec grand profit par les enseignants.
Dans les cours de 4e et 3e et 1ère et terminale, le thème de l'évolution de la société française au 19e et 20e siècle est plusieurs fois repris. Mais la question du mariage, du couple et des liens entre couple, famille et société n'est jamais posée, et encore moins celle de l'intime. Ça fait partie des champs de recherche qui ne sont jamais transmis aux élèves. Donc une petite question pour toi, Claire-Lise. Tu travailles sur des thématiques essentielles concernant le quotidien des individus et le vécu d'une société. Par exemple, la rencontre amoureuse, la constitution des couples et les échanges financiers qui s'opèrent au moment du mariage et les mentalités autour du mariage. D'après toi, qu'est-ce que cela pourrait apporter à des cours d'histoire du secondaire et de MC d'intégrer ces problématiques ?
En fait, cette histoire-là, c'est fondamentalement une histoire sociale et culturelle. Donc je pense que ça peut apporter beaucoup justement à l'histoire sociale, dans le sens où les petites annonces, c'est une sorte de décalque de papier du monde social. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des rapports de séduction et de ce qu'ils nous disent, en fait, de la segmentation du monde social. On ne se marie pas avec n'importe qui. Les rapports de genre sont imbriqués à des rapports sociaux et donc aussi à des rapports de pouvoir. Je pense que montrer que ce qui peut paraître anecdotique ou ce qui peut paraître un trait léger de la société, en fait, c'est un poste d'observation. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur les interactions sociales dans son sens le plus fort.
Oui, tout à fait. À part les petites annonces en tant que telles, quels documents tu penses que tu pourrais proposer à des collégiens donc de 4e, 3e ou à des lycéens pour travailler sur ça?
Je pense notamment à des études d'images qui fonctionnent bien à ces années-là. Toutes les petites caricatures qui sont très fréquentes dans la presse du 19e siècle sur les agences matrimoniales qui montrent en fait les stéréotypes de genre. Notamment, je pense à une caricature du Matin en 1936 où on voit un agent matrimonial qui présente une cliente qui est trop grande et trop baraquée, en fait, pour le client. Et le monsieur demande, vous n'auriez pas la taille en dessous? Ça fait écho à la critique de la marchandisation qui transforme les femmes en objets. Et en même temps, c'est aussi extrêmement sexiste. Voilà, l'étude de ces caricatures-là montre justement, par le rire, qu'est-ce qui est drôle pour les gens de cette époque-là. Nous, ça ne nous fait pas beaucoup rire, mais le rire est fédérateur autour de valeurs communes. Et là, la valeur commune, c'est la critique de la marchandisation et puis la norme de la jeune femme petite, plus fragile, face à un homme qui, lui, doit être plus costaud et plus imposant que ce qu'il est décrit sur l'image.
Oui, donc effectivement, on peut utiliser des caricatures. On aime bien, en plus, dans les cours d'histoire, utiliser ce genre de document qui permet vraiment de faire travailler les stéréotypes et les outils de pensée d'une société auprès des élèves, à voir si les élèves arrivent tout de suite à voir le problème de cette caricature-là du matin. Ou personnellement, sur mes élèves, j'ai un doute. Mais voilà, ça peut permettre effectivement de parler de ça. On a effectivement aussi, on a vu dans ta thèse, des textes, notamment un extrait d'un texte de Zola sur comment on se marie en 1893. Au XIXe siècle, l'amour est un garçon rangé, correct comme un notaire, ayant des rentes sur l'État. Il va dans le monde ou vend quelque chose au fond d'une boutique. La politique l'occupe. Les affaires lui prennent sa journée de 9h du matin à 6h du soir. Quant à ses nuits, il les donne aux vices pratiques, à une maîtresse qu'il paie ou à une femme légitime qu'il le paie. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce texte-là?
Il y a énormément de choses à dire sur ces quelques petites lignes, mais là, en fait, Zola critique l'hypocrisie de la bourgeoisie et surtout, ce qui est intéressant, il critique l'hypocrisie du double standard de la morale sexuelle où les hommes ont à la fois droit à une sexualité légitime. Il dit une femme qui le paie, c'est sa femme qui le paye par sa dot, et une femme que lui paye pour son plaisir, qui est la prostituée. Et en fait, ce texte-là, c'est du pain béni pour une anthropologue comme Paola Tebbett lorsqu'elle parle du continuum de l'échange économico-sexuel, où elle explique que l'échange entre hommes et femmes, donc l'échange de la sexualité, l'accès au corps des femmes, se monnaie d'une manière ou d'une autre, et qu'il y a bien un continuum entre l'épouse et la prostituée. Zola l'avait dit à ce moment-là.
Oui, je pense que l'idée, c'est que c'est de voir comment, à travers le mariage, la société évolue, comment les classes moyennes progressivement s'imposent, et à la fois en essayant d'imiter le mariage bourgeois, puis progressivement en s'en détachant. Il me semble qu'à travers cette thématique du mariage et ses sources de petites annonces, finalement, les enseignants peuvent évoquer toute cette partie des cours de quatrième, troisième, qu'on retrouve en première et en terminale, sur cette évolution, cette modernisation de la société et la façon dont le lien matrimonial devient progressivement un lien amoureux, et comment les prestations financières de départ évoluent et deviennent, ce que tu disais tout à l'heure, Claire-Lise, des prestations en termes de compétences professionnelles et qui vont beaucoup plus structurer les couples que le faisait auparavant la dot. Donc il y a des choses à exploiter qui sont vraiment tout à fait passionnantes pour les enseignants, même si les programmes n'incitent pas, bien sûr, à aller évoquer tous ces points dans les cours.
Bien sûr, ça nécessite de faire le fameux pas de côté que tout enseignant et enseignante qui veut insérer de l'histoire des femmes et du genre est obligé de faire pour pouvoir avoir un pied vers les programmes et en même temps prendre un peu plus de liberté. Ça permet aussi de montrer aux élèves des documents qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, puisqu'au final, on tourne quand même toujours avec les mêmes types de documents quand on utilise les manuels scolaires. Donc voilà, si on se sent la capacité de faire ce pas de côté, ça pourrait donner une séance, voire une séquence hyper intéressante. Après, si on ne se sent pas forcément très à l'aise sur ce fameux pas de côté à faire, on peut aussi aborder ces thématiques-là dans le programme spécifiquement de l'entre-deux-guerres. Quand on doit faire un bilan justement sur l'impact que la Première Guerre mondiale a sur la société française en troisième ou en terminale, bah justement, en fait, à travers ces petites annonces, on voit qu'il y a des... pas tout à fait des gueules cassées, mais en tout cas des hommes qui ont des stigmates liés à la guerre.
Ils ne disent pas qu'ils ont gueule cassée, mais il y en a qui disent qu'ils sont infirmes, et en fait, on voit...
C'est ça, infirme, donc il y a de la surdité, etc. Donc, On le voit un peu en transparence. Et le fait, comme tu expliquais, Claire-Lise, qu'il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes, ça permet justement de changer, en fait, tout simplement, cette classique pyramide des âges.
Oui, on peut travailler sur le rapport de masculinité, en fait, de façon hyper intéressante. Et tu fais plein de schémas, de graphiques dans ta thèse qui peuvent être utilisés sur ces points-là et qui montrent que c'est aussi des chiffres qui sont pertinents pour travailler sur l'évolution de la société. Quand tu dis, sur le marché matrimonial, finalement, les femmes vont abaisser leurs prétentions parce qu'elles savent qu'elles sont plus nombreuses. Donc, ça induit aussi des différences, des grosses transformations, puisqu'on est plutôt sur des stratégies hypogamiques pour les femmes et hypergamiques pour les hommes. Donc, ça apporte une grosse évolution de la société.
Il y a aussi la question de l'alcoolisme, en fait, qui est souvent qu'on voit aussi à travers ces annonces, puisque les femmes demandent des hommes sobres. Pour le coup, les rares fois, je crois, où les hommes se décrivent, ils précisent qu'ils sont sobres.
Oui. Plutôt dans les classes populaires, d'ailleurs.
Oui.
Voilà, donc ça puis il y a la question de l'autonomie des femmes. Par contre, les programmes, eux, insistent beaucoup sur les munitionnettes, le fait que les femmes prennent la place des hommes pendant la guerre. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe au lendemain de la guerre? Est-ce que c'est cette soi-disant liberté qu'elles ont acquise pendant la guerre se poursuit? Eh bien non, en fait, en travaillant sur le marché matrimonial, on voit qu'il y a vraiment une volonté de retour à l'ordre et de la part de la société et de la part des femmes elles-mêmes qui cherchent à retrouver des maris parce qu'être seule, parfois veuve avec des enfants, c'est particulièrement difficile dans cette société d'entre-deux-guerres. Donc, en fait, le point de vue du mariage et le point de vue de trouver un mari ou pas, ça permet d'aborder plein d'autres thèmes qui, pour le coup, eux, sont vraiment totalement dans les programmes.
Oui, et en termes de documents, on peut aussi utiliser des extraits des articles de Claire-Lise, justement, qui expliquent que les quelques femmes qui font preuve de leur modernité, de leur éducation, etc., ce ne sont pas celles qui trouvent à se marier, en fait, justement, et qu'au contraire, ce sont plutôt les femmes qui font des concessions, comme on disait, et qui sont peu exigeantes, tant qu'elles sont femmes au foyer. Et voilà.
Il y a aussi une autre chose qui m'a frappée dans les documents, dans les petites annonces de Claire-Lise, c'est la proportion de femmes qui se déclarent catholiques. C'est vrai qu'on apprend aux élèves, on a tendance à leur apprendre que, avec le mouvement des garçons, etc., qu'on a une forte modernisation de la société. Et puis, en fait, dans les petites annonces, on voit des femmes, la première chose qu'elles disent d'elles, c'est qu'elles sont des bonnes catholiques. Donc, ça permet aussi de relativiser et du coup, d'avoir une approche de la société beaucoup plus fine.
Et ça permet aussi de voir comment est-ce qu'elles essayent de faire coexister ces deux aspects, parce qu'il y a des femmes qui ont des professions, qui sont dans la génération des garçons, parfois qui ont les cheveux coupés, etc., mais du coup qui surenchérissent de garanties, parfois en se disant catholiques, souvent en se disant femmes d'intérieur. Donc oui, émancipation dans une certaine mesure, et en même temps, c'est pas parce qu'elles travaillent, par exemple, qu'elles doivent pas garantir aussi des stéréotypes de genre traditionnels, comme le fait d'être une bonne fée du logis en devenir.
Oui, ça c'est un stéréotype très très fort dans les petites annonces, qui nous permet de voir pourquoi les combats pour l'égalité, le partage des tâches, etc., sont des combats qui sont vraiment toujours d'actualité. C'est parce que pendant très longtemps, c'est vraiment un stéréotype très fort, intériorisé par les femmes, de devoir être une femme d'intérieur pour pouvoir être une épouse, en fait, pour être désirable en tant qu'épouse.
C'est demandé par les hommes aussi, qui voient là parfois l'économie d'une femme de chambre. C'est très concret, en fait, d'avoir une femme d'intérieur qui va gérer tout le travail domestique dont on sait qu'on peut le calculer, l'évaluer, mesurer.
Et ça, on peut totalement l'aborder dans les cours de MC, justement, puisque le programme, pour le coup, nous invite à parler des discriminations. Dans les discriminations, on peut intégrer, justement, et je pense même qu'on doit intégrer, les questions de stéréotypes. Et là, pour le coup, on a plein de documents pour parler de stéréotypes masculins et féminins et faire une continuité du 19e jusqu'à nos jours.
Oui, leur évolution dans le temps et de montrer comment, finalement, les évolutions ne sont pas si rapides ni si évidentes, en particulier dès qu'on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur des foyers.
C'est ça. Donc en termes de documents, on vous invite forcément à aller lire les articles et la thèse de Claire Ligaillard, parce que c'est là, en fait, où on va trouver plein de petites annonces, plein d'extraits de journaux, plein de...
Et beaucoup de graphiques aussi, un énorme travail statistique, d'analyse statistique qui a été fait et qui est tout à fait passionnant.
Puis je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à faire des lectures d'annonces avec les élèves, parce que y a vraiment une expérience de lecture où on se rend compte très vite qu'il y a des thèmes qui reviennent. Et pour l'avoir fait beaucoup avec mes étudiantes et étudiants, en fait, très vite, ils arrivent sur le sujet de tous les thèmes qu'on a évoqués.
Oui. Les premiers documents utilisés, à mon avis, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont les plus originaux parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Et puis, ça crée une espèce de nouveauté pour les élèves aussi. Qu'est-ce que c'est que ce document ? Il y a un rire au début. On lit les premières annonces, on se dit, bon, c'est quand même assez drôle. Mais effectivement, très vite, au bout de la deuxième annonce, on voit tout de suite que il y a des trucs à dire, en fait.
Mmh. Oui, on peut les analyser. On peut même imaginer des exercices d'écriture de petites annonces qui peuvent être des écritures contemporaines, façon de se décrire actuellement, ou alors des écritures passées, quoi. Et les faire travailler sur cette grammaire, comme tu disais, spécifique des petites annonces.
Et si on veut aller un petit peu plus loin, par exemple en lycée, pour parler des programmes de spécialité en âge de GSP, en première âge de GSP, il y a un thème sur les médias où justement on étudie en fait le passage de la presse écrite, puis de la radio, de la télévision, de l'internet. Mais en fait, c'est tout bête, mais ne serait-ce que justement le lien entre les petites annonces dans les journaux et les sites de rencontres actuels, on voit qu'il y a une continuité. Bon, on va peut-être pas faire toute une séquence dessus parce que je sais pas, peut-être pas ou pourquoi pas. Mais en tout cas, on peut voir que même sur ces questions-là d'intimité, en fait, cette progression technologique des médias a son importance.
Bien, nous allons conclure sur toutes ces propositions qui vous ouvrent, je l'espère, des perspectives assez passionnantes de travail avec vos élèves.
Vous pouvez retrouver la bibliographie qui concerne cet épisode sur le site internet de Mnemosyne. Elle pourra vous aiguiller et vous aider à réfléchir sur les questions de l'intimité étudiées au prisme du genre. Ce podcast vous a été présenté par l'association Mnemosyne pour l'histoire des femmes et du genre, avec à la production Cécile Béguin, à la réalisation Noémie Gmur et à la lecture des textes Clémentine Letellier. Merci au studio La Poudre, situé à la Cité Audacieuse, de nous permettre d'utiliser leurs locaux. Dans le prochain épisode, nous recevrons Pascal Mormiche pour nous parler de l'éducation des filles au XVIe et XVIIe siècle. À bientôt !